Bienvenue à la French Connection, épisode 45.
48.
48.
Bonjour. Là, on voit qu'on a un peu de confusion. Richer, je pense, depuis trop longtemps, n'a pas participé. Il est resté à l'épisode 45.
Des délais. Quoi, t'oublies ça? Je suis désolé. Moi, je sais plus compter aussi, il y a ça.
Donc, Richer est avec nous. Et on est également avec Vincent cette semaine.
Salut tout le monde!
Et pendant qu'on enregistre, Patrick est en train d'animer le AIAC qui a lieu à Québec, à Sherbrooke et en Colombie présentement. Donc, il ne se joindra peut-être à nous plus tard, mais d'après moi, je pense que l'organisation de l'événement est assez importante. Cette semaine, on va aborder un petit interlude avec Damien qui nous parle du hack à Paris, la nuit du hack. Il a essayé de nous envoyer de l'information. Finalement, la connexion est instable. Donc, on va juste des petits sons, des petits clips qu'on va rajouter. Ensuite, on va avoir GitHub qui s'est fait. Le GitHub de Gen2 a été hacké. Donc, il y a des éléments là-dedans. Et nous allons parler d'architecture d'entreprise. Et maintenant, les shameless plugs. Ben, il n'y a pas grand-chose à annoncer présentement, outre le fait que le Hackfest s'en vient cet automne, qu'il va y avoir un Québec sec fin du mois de juillet. Et on concote un nouvel événement de sécurité pour le début du mois d'avril. Alors, commençons avec les éléments de Damien.
Salut tout le monde!
Donc, on va explorer un peu ce qui se passe dans cet univers tout à fait frivole.
C'est ça.
Qui se passe à Paris actuellement.
Alors, ce qui est bien, c'est que on a l'habitude de parler de notre Hackfest québécois. Hein. Eh bien, là, on a été voir les cousins du Grand Nord, mais français. Donc, ça se passe à Paris. C'est la première année où ça se passe à La Villette, hein, qui est la Cité des Sciences, qui est vraiment un lieu magique. Hein, aussi, nos amis québécois, canadiens et même les autres qui nous écoutent ont envie de passer par là. Il y a la Tour Eiffel, mais il y a aussi cet espace qui est dédié aux sciences, qui est vraiment exceptionnel. Et donc, eh bien, pour cette nuit du hack numéro 16, eh bien, ça se passe ici. Avant, ça se passait chez Mickey, hein, à Disneyland Paris. Et ça a été modifié parce que c'est toujours bien de voir d'autres lieux, d'autres endroits. Et là, pour donner une petite idée, c'est plus de 1900 entrées. Les organisateurs qui s'appellent Hacker Voice, des gens vraiment très, très chouettes, n'ont pas eu le choix cette année. Ils ne pouvaient pas faire rentrer plus de monde parce que pour des questions de sécurité, ils se sont retrouvés avec ce genre de petits problèmes. Donc, je vais être honnête avec vous. Hein. On aurait été capable, je pense que les organisateurs auraient été capables carrément d'avoir le double. Alors pourquoi autant de monde? Eh bien d'abord, c'est l'aspect vraiment très convivial. C'est simple, hein, si vous connaissez le Hackfest dans le Grand Nord, à Québec, eh bien c'est un peu le même état d'esprit. C'est de l'éthique, mais c'est aussi des gens qui aiment échanger, c'est de l'humain. C'est pas que de la technique, c'est pas que du hack, c'est aussi ben voilà, faire des belles rencontres. Et ici, par exemple, ben, pareil, hein, pas mal de conférences certes techniques, mais on a eu aussi des conférences sur le social engineering. Il y a eu des conférences aussi aux alentours de parler, on va dire, des bots et autres. Et on a aussi des workshops. Et là, ben, au moment où je vous parle, on est devant un workshop qui est assez étonnant. Alors, il est tenu par Xavbox. Xavbox est assez connu dans le milieu pour être un amateur de consoles de jeux. Il avait, par exemple, aussi, l'année dernière, avec d'autres amis, parlé de drones et de hack de drones. Et bien, cette année, on hack sur son stand eh bien, la Switch de Nintendo. Alors là, je vois déjà des grands yeux s'ouvrir. Alors attention, hein, on n'est vraiment pas dans un hack de contrefaçon, de malveillance, mais on est en train de montrer comment ce genre de matériel, aussi technologique et aussi puissant soit-il, peut être reversé, peut être réutilisé, en tout cas peut être un petit peu plus approprié par les propriétaires. Donc ça veut dire que il sera possible prochainement déjà de jouer avec des jeux non pas commerciaux, parce que je vous rappelle, hein, c'est illégal, de jouer avec des copies. En tout cas, sur le territoire français, ça serait considéré comme de la contrefaçon. Mais déjà se retrouver avec eh bien, des jeux fabriqués maison par des passionnés, des demo makers par exemple, etc., etc. Et donc là, il y a depuis tout à l'heure, il y a eu une bonne centaine de personnes qui sont venues regarder. On a aussi, mais ça on connaît avec le Hackfest, hein, on a du lockpicking, il y a aussi la découverte de comment fabriquer un jeu vidéo de manière assez simple avec un Raspberry. Donc voilà, la nuit du Hack, ce numéro 16, c'est ça. Moi, de mon côté, ça fait 5 ans qu'on fait ça avec les organisateurs. Et chouette, on va commencer à le faire aussi avec le Hackfest cette année au mois de novembre. C'est le confessionnal. Alors, rapidement, le confessionnal, c'est quoi? C'est des gens, des inconnus, je ne veux même pas savoir qui ils sont, même si j'ai pas mal de gens que je connais, que je côtoie dans les mondes numériques, qui viennent, simple, venir boire un verre, comme on a pu le faire à deux, hein, Nico, hein, tu te souviens, à Lille, cette chouette rencontre plaisante où on a parlé justement des réseaux sociaux et des enfants. Eh bien là, ils viennent... Eh bien, m'expliquer un petit peu ce qu'ils ont pu découvrir. Alors, par des audits sauvages, bon, je rappelle toujours quand même que c'est illégal, hein, ça pourrait faire peur aux entreprises qui sont visitées de manière un petit peu impromptue. Et bon, voilà, c'est pas l'une des meilleures méthodes, mais il faut pas se voiler la face, des gens le font. Et donc, du coup, ils viennent, eh bien, m'expliquer ce qu'ils ont fait. Moi, ma mission, ça va être quoi? Eh bien, lundi, ça va être d'alerter les entreprises et leur dire, ben voilà, des inconnus sont venus m'apporter des informations. C'est pour vous aider, vous les avez en main maintenant, corrigé. Donc voilà, donc voilà en gros ce qui se passe là dans cette nuit du hack numéro 16. Et surtout, il y a une grosse nouveauté côté organisation et organisateur, c'est que ça va changer de nom à partir de l'année prochaine. Fini la nuit du hack, et ça va s'appeler le hack. Alors pour des questions de droit sur le nom nuit du hack, eh bien du coup ils ont été obligés de changer. Et puis, comme expliquaient aussi les organisateurs, ça permet donc de se renouveler parce que, eh bien, 16 ans, c'est pas négligeable et que donc, du coup, ils vont pouvoir maintenant évoluer et proposer d'autres choses. Et voilà. C'est en tout cas un très, très beau rendez-vous. C'est le Hackfest est le plus gros rendez-vous francophone d'Amérique du Nord. On peut clairement dire qu'ici, la nuit du hack est le plus gros rendez-vous francophone d'Europe. Parce que là, vraiment, on a de tout. Et ben voilà, c'est convivial. Donc d'ailleurs, vous pouvez l'entendre au bruit. Là, par exemple, j'ai quelqu'un à côté de moi qui vient pour le confessionnal. Voilà, on triche un petit peu parce qu'on se connaît depuis pas mal de temps. Mais voilà, c'est un moyen aussi de se faire de la convivialité. Parce que, comme je le dis tout le temps, hein, à force de le dire, je pense que tout le monde l'a bien retenu, mais la cybersécurité et la sécurité en général, ça doit être de l'humain d'abord. Parce que bah, l'humain, c'est ce qui fait qu'on cause, qu'on parle. Voilà, on n'est pas omnubilé par la chose, mais je pense que d'en parler d'une manière un peu sympathique autour d'un verre, eh ben, c'est aussi un moyen de s'informer, donc de se sécuriser.
Ouais, c'est essentiel de pouvoir échanger d'informations entre les humains, justement.
Ah, mais c'est très, très important, sachant qu'ici, en plus, ça bouge énormément. Hein. Ça sera la petite actualité de la quinzaine. Mais vous vous souvenez, on a parlé du RGPD. Là, au mois de novembre, je parlerai des 6 mois du RGPD en Europe et en France. Il faut savoir que la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, a encore condamné une entreprise qui fuitait, qui laissait ses données, et surtout les données de ses utilisateurs, qui là, d'autant plus, étaient des gens fragilisés. Pourquoi? Parce que c'était des chercheurs, en tout cas des demandeurs de logements sociaux, et on se retrouvait avec des documents très sensibles, allant de leur carte d'identité, de leurs documents administratifs. Donc, ben, ils ont été condamnés, et c'est une condamnation loin d'être négligeable, hein, c'est 75 000 euros.
Quand même, effectivement, ça commence à brûler les doigts, cet argent qui s'enfuit pour des choses normalement qui auraient pu être réglées plus simplement.
Tout à fait. Donc voilà, Nico, ben, je pense qu'on va couper là parce que j'avoue que je suis dans un sous-sol avec une connexion... pas évidente du tout, et vous êtes bien au courant hein, qu'on n'utilise jamais les connexions Wi-Fi proposées, et encore plus quand elles sont proposées dans des lieux de access et de concours de hacking.
C'est pas un endroit très propice à l'usage du Wi-Fi, donc non, je cautionne.
C'est ça. Bon ben voilà, moi je vous dis à très vite.
D'accord, maintenant, Richer. Gentoo a été...
C'est bon. Oui, donc Gentoo qui s'est fait hacker sur leur repo dernièrement. Au détail de l'article qu'on va fournir dans les show notes, il mentionnait comme quoi que le mot de passe d'un des administrateurs des repos a été compromis. Et ce qui fait que finalement, la personne ou les personnes qui ont pu attaquer les repository de Gentoo ont bloqué les administrateurs de leur contenu et ont changé quelques trucs. Finalement, ils mentionnaient comme quoi qu'il faut considérer que tout est compromis ou peut être potentiellement compromis. Donc, c'est un gros problème, qui fait que ça reste encore, que les mots de passe restent quand même une faible, le faible maillon de la chaîne pour la sécurité.
Ah, c'est toujours, ben, on revient toujours au même problème. C'est dans ce cas-là, c'est toujours le deux facteurs, toutes les poutines standards et le rajout de peut-être des certificats et d'éléments complémentaires.
Ouais, c'est quand même plate parce que justement, ça revient un peu à l'histoire. Ça me fait un parallèle un peu avec l'histoire qu'il y avait eu au niveau du Debian quand que le SSL était compromis. C'est sûr que c'était pas un hack en particulier, mais c'était quand même le même type de problème que, en bout de ligne, les choses peuvent être compromises, puis ça peut avoir un impact à grande échelle au niveau de plusieurs machines. Donc, on ne sait plus c'est quoi qui est sécuritaire rendu là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on revient en arrière? Est-ce qu'on formate, on réinstalle? C'est problématique.
Ah, surtout pour des codes, des éléments de code source comme ça, pour des systèmes d'exploitation qui sont... Sur Gentoo, il n'est pas une des plus grandes distributions de Linux, mais quand même une distribution qui est assez importante. Donc, l'infection potentielle du code, c'est no fun.
Oui, effectivement. Donc, c'est à voir pour la suite. Là, présentement, c'est ce qui avait été déterminé par rapport au post-mortem de cette attaque-là.
C'est quand même bien. En tout cas, ils l'ont repéré relativement rapidement, puis ont pris les mesures nécessaires pour redresser la situation. Mais on tombe toujours dans l'univers où ce qu'on voit devant nos yeux est... n'est pas toujours nécessairement la vraie chose.
C'est arrivé quand, ça? Ça, j'ai pas la journée exacte, écoute, désolé, mais c'était au courant de la semaine. C'est au courant de la semaine, comme c'est là que ça s'est passé. Puis, en réalité, l'article en tant que tel, lui, comme c'est là, c'était le 4 juillet. Donc, ça fait pas très longtemps qu'ils ont mentionné ça. Donc, c'est arrivé quelques jours avant. Ça fait vraiment pas longtemps que ça s'est propagé. Ben, écoute, regarde, je vais retrouver l'article exact.
Pion, ouais.
Pop. 28 juin 2018.
OK. Fait que, ils ont fait une belle gestion de crise, j'imagine, là. Ils ont fait une annonce assez rapide.
Mais ça... Oui, mais dans le fond, comme ça, ça s'est dit quand même assez relativement rapidement. Puis, dans le fond, c'est ça, on l'a su rapidement, ce qui est une bonne chose, parce qu'autrement, je veux dire, d'essayer de cacher ce genre de choses-là, c'est tellement pas une bonne idée, surtout sur une plateforme aussi utilisée. Tu sais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, Gentoo, mais c'est quand même relativement utilisé au travers du monde. Il y a plusieurs personnes qui utilisent ça pour différents produits. Puis, donc, c'est tout comme toutes les autres plateformes, c'est important d'avoir une façon responsable de pouvoir divulguer les informations et de dire qu'est-ce qu'il y en est. Donc, je pense que, jusqu'à preuve du contraire, ça semble être bien, plutôt bien géré.
Bon, c'est bien ça.
Ça, ce que ça donne, cette impression-là, oui.
Fait que dans le fond, pour avoir plus de détails, c'était le 28 juin à 20h20, heure universelle.
OK. Donc, passons à la nouvelle suivante. En tout cas, peut-être le sujet suivant, parce que il est quand même plus complexe, celle-là, au lieu d'être juste une nouvelle. Vincent va regarder l'architecture d'entreprise et les effets sur la sécurité.
Oui. Écoutez, je m'intéresse un petit peu plus à l'architecture depuis... Ça fait un petit bout, mais notamment depuis mon passage chez un de mes anciens employeurs. J'ai trouvé un article cette semaine. Vous irez voir le lien, c'est une dizaine de petites slides, c'en est même cocasse, puis vous allez reconnaître, chers informaticiens qui nous écoutent, puis même ceux qui ne sont pas, des moments que vous avez probablement vécu avec les méfaits d'une mauvaise architecture ou d'une absence d'architecture. Alors, ça se lit comme suit, j'ai vulgarisé un petit peu, là. Comment est-ce qu'on sait si notre organisation s'est éloignée du chemin? Il y a 9 signes qu'une mauvaise architecture s'est emparée de votre organisation. Premier, on s'en rend compte quand il y a beaucoup de recompositions manuelles. Pensez par exemple à un système où vous entrez une information qui est supportée par sa propre base de données, mais qui interagit avec un ou d'autres systèmes qui... ces autres systèmes-là sont aussi supportés mais par leur propre base de données. Donc, la recomposition de plusieurs fois la même information au lieu d'avoir un système de synchronisation automatisé, encore là, c'est pas le meilleur des mondes, mais l'impact architectural là-dedans, c'est que ça occasionne beaucoup d'erreurs de manipulation qui entraînent des données incohérentes. Puis au niveau des affaires, ben ça éloigne les ressources d'entreprise des activités créatrices de valeur. C'est-à-dire que à place d'être plus productif, ben on doit recomposer la même information dans plusieurs systèmes. À ça, on peut voir aussi, comme deuxième point, une addition de solutions ponctuelles pour gérer le problème. En fait, on ne le gère pas, on fait juste le patcher. Donc, on augmente les interfaces système, on augmente le nombre de plateformes qui doivent être prises en charge. Puis, encore là, ça demande la recomposition manuelle dans plusieurs des cas. Puis, au niveau des affaires, ben, ça ralentit les processus, ça augmente les coûts de formation. Et en plus des problèmes, encore là, de recomposition manuelle. Vous allez voir, le mot-clé là, dans un problème d'architecture, c'est la recomposition manuelle, qui est souvent un des éléments là, qui est un peu irritant. Ça nous donne, comme troisième point, ben, plusieurs applications redondantes qui utilisent une portion de même information, mais pour des processus différents. Encore là, ben, ça augmente les interfaces systèmes, le nombre de plateformes qui doivent être prises en charge. Puis encore là, ben, ça éloigne les ressources des activités créatrices de valeur. Autrement dit, ça devient irritant pour beaucoup d'employés. Ça augmente les dépenses sur les logiciels, les licences, qui ne fournissent pas de nouvelles fonctionnalités finalement à l'entreprise. Puis encore là, ben, ça occasionne de la recomposition manuelle. Données redondantes, on parlait de système redondant. Système redondant, c'est la coquille. Et puis, les données redondantes, ben, c'est ce que la coquille contient. Bon, ben, on augmente encore les interfaces système qui créent un besoin de recomposition manuelle. C'est parce qu'au niveau des affaires, ça devient difficile de maintenir la synchronisation des données entre plusieurs bases de données. Ça entraîne un gaspillage d'efforts dans les activités de rapprochement. Puis l'obtention de réponses erronées en fonction de la base de données interrogée. Ça, c'est des affaires que moi, j'ai déjà vécues. C'est pas drôle. Il y a même, pour certaines institutions financières, là où ça devient un problème, parce qu'il y a beaucoup de réglementation, imaginez une institution qui offre plusieurs types de produits, mais qui utilise plusieurs types de systèmes. Pour la vente d'un produit, que ce soit d'assurance ou un produit financier, on doit faire une gestion de risque sur la personne à qui on va vendre le produit. Alors, imaginez si cette personne-là a deux ou plusieurs autres produits provenant d'une même institution, mais son information est erronée dans des systèmes, ce qui donne des scores de gestion de risque différents. Ça, il faut faire attention parce que, si je ne me trompe pas, c'est un des critères qui peut être puni là, par les autorités réglementaires. On parlait tantôt de plusieurs systèmes redondants, des données redondantes, augmentation des interfaces. À un moment donné, ben, cinquième point, il y a trop d'interfaces. Ça devient fragile puis difficile à entretenir. Puis encore là, ben, quand une interface ne va pas bien, on n'a pas le temps de consolider. Fait que les ressources informatiques, le développement, les intégrateurs, ben, ils n'ont pas le temps de faire des belles choses pour l'entreprise, parce que ça les éloigne des activités créatrices de valeur. Autre petit terme que j'ai trouvé intéressant, c'est le faux élégant intégration, ce qui devient tout aussi fragile à entretenir. Le faux élégant intégration, c'est qu'on a un paquet d'interfaces différentes pour plusieurs systèmes redondants, où on vient mettre une couche par-dessus qui donne l'impression de consolider toutes les interfaces. Ben, encore là, ça draine toujours les ressources de l'activité de créatrice de valeur. Puis c'est également extrêmement dispendieux parce que ça peut avoir un effet domino là, quand il y a des problèmes qui surviennent. Numéro 7, bisounage et solutions de contournement. Ben, ça résout le problème immédiat. Hein? On crée des héros dans l'entreprise, mais... ça recrée en fait des systèmes qui sont fragiles, plus difficiles à entretenir. Ben, le coût de maintenance, il augmente encore avec chaque solution inutile, tout comme le temps d'arrêt, les coûts de formation, la complexité de chaque projet subséquent, parce qu'il ne faut pas oublier que dans des entreprises, on est drainé par les affaires veulent ci, les affaires veulent ça. Ben, à un moment donné, ça devient extrêmement complexe d'intégrer surtout les nouvelles solutions. Jusqu'à présent, ce que je parle, ça fait beaucoup référence à peut-être des entreprises qui n'ont pas su investir au moment opportun puis qui traînent de la patte avec des systèmes qui sont désuets. Mais sachez qu'avec une mauvaise architecture, même avec les nouvelles solutions, si on prend pas le temps d'avoir une vue en fait de notre plomberie informatique, même avec des nouvelles solutions, c'est le même problème survient de toute façon. Bon, je parlais justement de désuétude. Ça augmente grandement le parc informatique de technologies obsolètes. Difficulté croissante de maintenir la technologie puis l'interface avec les nouveaux systèmes puis les nouveaux équipements. Les coûts de maintenance sont accrus puis on a une incapacité croissante d'adapter les systèmes aux exigences nouvelles et changeantes de l'entreprise. Et puis, les fameux livres blancs, ou si vous préférez, les white papers, c'est quoi l'impact? Il n'y en a aucun, parce que tout le monde ignore le groupe d'architecture. Puis au niveau des affaires, écoutez, le coût dû au gaspillage des salaires, le papier, le toner, puis encore plus du cynisme des employés à propos d'un engouement pour la gestion. J'aime bien le numéro 9. Alors, voilà les impacts d'une mauvaise architecture informatique, là, technologique, de sécurité. Appelez ça comme vous voulez. Là. Quand on ne se donne pas la peine de faire l'inventaire de notre plomberie, de faire le dessin de notre plomberie, les moyens de communication, les moyens d'intégration, tous les mécanismes, ben, on augmente le parc, on augmente les coûts. Les erreurs de données redondantes, les erreurs de saisie. Alors voilà, c'était ma petite chronique sur l'architecture.
Dans ce contexte-là, parce que là, c'est un peu plus TI ce que tu as mentionné par rapport, et là, relate par rapport à ton expérience, le volet sécurité spécifique à l'architecture d'entreprise et à ces petits éléments que tu as mentionnés, comment tu fais l'adéquation?
Écoutez, il n'y en avait pas d'architecture avant. En fait, c'est faux. Ça ne s'appelait pas de même. C'est juste que tout le monde se parlait. Hein? Au début, là, les affaires, quand ils achetaient des TI, ils étaient proches des bebelles techno qui dépensaient. C'est pas une question qu'ils s'intéressaient à ça. C'est une question qui voulait que ça livre la marchandise puis qu'il y ait un coup de revient là, avec les dépenses liées aux technologies. Donc, les affaires s'intéressaient à ce département-là. Ça se parlait beaucoup. Puis, les gens n'étaient pas gênés de dire à un moment donné, on a un MBS, on veut intégrer du distribué. OK, est-ce que ça marche? Ben oui, ça marche. Mais ça rend l'environnement un petit peu plus complexe. Ça rend les communications, la sécurité des communications entre les systèmes. Tantôt, Richer parlait du problème là, de compromission du mot de passe d'un administrateur système. C'est le même scénario encore. Ça va créer beaucoup d'éléments, justement, à mettre en évidence dans un plan d'architecture pour s'assurer que les mécanismes qu'on met en place pour assurer que les gens aient accès aux données quand ils en ont besoin, puis aux données qu'ils ont besoin seulement, donc assurer un accès du moins de privilèges, le moyen d'accéder à ça avec un distribué, ben là, ça prenait une console TN3250 ou une console TN3270, là, dépendamment si vous aviez un AS400 ou si vous aviez un MBS. C'est des logiciels supplémentaires. Ça prend des licences supplémentaires, des types d'accès supplémentaires. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Toutefois, si on est capable de mettre en évidence ça, de dessiner notre plomberie, puis la façon d'accéder, le comment, ben c'est plus simple à ce moment-là de voir les fameux mécanismes, de voir quels sont les risques de ces mécanismes-là, la performance des mécanismes, est-ce qu'ils sont exposés, internes, externes, etc. Puis, on peut aussi créer de la valeur au travers de ça quand on a une belle architecture. À un moment donné, quelqu'un va dire « OK, ça suffit, là, on a déjà 2-3 systèmes qui font la même affaire, mais de façon un petit peu différente. Ils sont un peu unifiés. C'est plus simple de mettre ces choses-là en perspective, d'avoir des beaux business cases, puis créer de la valeur pour l'entreprise, là, d'être aligné ses stratégies, puis faire face justement aux nouvelles réglementations pour les compagnies qui sont assujetties aux lois et règlements. Ça répond pas pire?
Ça, c'est ça, mais dans le fond, c'est un peu comme une cartographie des différents services, puis au regard de la sécurité, d'avoir cette cartographie-là, ça facilite la mise en place de mesures de sécurité efficaces.
Oui, c'est en plein ça. C'est pas une genre de cartographie. C'est une cartographie, ça l'apprend. Employez le niveau que vous voulez, mais quand un nouveau projet s'insère au sein de l'entreprise, au niveau de ce que ça va livrer, de ce que ça doit faire, au niveau des risques, est-ce que c'est un système interne non exposé, est-ce qu'il est exposé, etc. Et là, c'est facile de voir à qui on va donner accès, comment on va donner accès, puis de s'assurer de mettre, dépendamment le niveau d'exposition, de proposer des mécanismes performants, sécuritaires. On ne veut pas nécessairement la Cadillac des mécanismes sécuritaires, mais au moins un mécanisme qui démontre en fait un effort, une volonté de bien protéger les choses. Quand une entreprise est victime d'une je dirais pas d'une perte de données, parce que les données sont encore là, je vais dire un accès non autorisé, parce qu'on perd les données quand on est dépossédé, là. Mais un accès non autorisé où les données se retrouvent sur le dark web, se retrouvent dans les mains de personnes malveillantes, etc. Si la compagnie peut démontrer qu'elle a mis les éléments en place, qu'elle a fait les efforts, qu'elle avait des mécanismes de test, d'application de correctifs, formation, sensibilisation, etc., ben c'est plus simple là, ensuite de ça de se défendre, puis au niveau de la réputation, que de dire tout simplement bon, on a pas grand-chose en place, on n'a rien de documenté. On va vous dire, si une autorité réglementaire débarque dans un tel cas puis décide de faire une enquête pour taper ses doigts à la gestion, ben si vous avez rien, la gestion va se faire taper ses doigts. Pensez à Equifax. Mais si vous avez quelque chose, oh, là, c'est une autre histoire, par exemple. Là, il y a peut-être des moyens pour les enquêteurs, justement, de retracer, de trouver un modus operandi, de démontrer, en fait, là, que une personne très motivée, malveillante, mais avec des très, très, très grandes capacités. On va tous être victimes de ça un jour. Si on peut démontrer là, qu'on a les éléments en place pour appliquer le NIST, là, en parlons-en, si on est capable de justement d'identifier, détecter, protéger, répondre et puis retourner à la normale, ben, l'enquête va être facilitée, puis vous allez sortir gagnant de ça, là.
Ça, écoute, mais franchement, j'adore. Très beau discours. Mais c'est ça, dans le fond, de ce que je pourrais ajouter, c'est justement le fait d'être capable de pouvoir unifier les interfaces puis de mettre ça le plus simple. Parce qu'on s'entend, plus on complexifie une architecture, plus il y a de risques qu'on soit vulnérable puis qu'on ait des chances qu'on puisse se faire attaquer puis on ne sache pas en tout comment c'est arrivé et comment on peut se protéger contre ça. Donc...
Ah, c'est sûr que c'est des éléments facilitants pour l'ensemble de l'entreprise. Puis c'est sûr que là, on voit clairement ton background dans les grandes entreprises, surtout financières. Oui, effectivement, je suis vraiment très favorable à ce genre de choses-là. Et en deux sur quoi, le fait que ça nous donne un moyen tangible et efficace pour prendre les bonnes décisions, tu parlais d'optimisation des ressources, c'est fondamental. Si tu n'as pas de cartographie, donc tu n'as pas de carte, donc tu ne sais pas où tu t'en vas, donc c'est beaucoup plus difficile de faire un usage judicieux des moyens financiers d'une entreprise.
OK.
Sur ça, moi, ça va pas mal compléter le sujet. Et en plus, on a un petit peu de difficulté, Richer et moi, à se communiquer. Donc, on va terminer l'épisode là. Puis en même temps, j'ai pas fait la mention que durant l'été, il va y avoir des diffusions peut-être un peu différées par rapport à ce qu'on est habitué de faire, les gens étant en vacances. Mais on continue quand même à diffuser régulièrement des épisodes, soit des épisodes qui viennent du CQSI, ou soit des épisodes qui seront enregistrés dans différents coins du monde. Sur ce, bonne semaine.
Bonne semaine à vous.